Votre lecture, vous, avant de parler de ESG, de ce marché, du momentum, effectivement, de ce CAC aussi qui a un petit peu hésité avant, ça y est, d'avoir franchi la marche des 6004.
Bah nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a peu de cailloux dans la chaussure des marchés. Il y a bien sûr les moteurs monétaires et budgétaires qui fonctionnent bien. Donc le marché essaye de se faire peur avec un certain nombre de thématiques. Donc on a eu l'inflation qui a occupé les économistes ces dernières semaines. Finalement, la géopolitique, il n'y a pas beaucoup d'ennuis. Enfin, il y a la crise biélorusse, il y avait quelques tensions en Israël. Enfin, bien sûr, il y a des morts à chaque fois. Alors, enfin, c'est toujours délicat. Mais ce sont des petites choses. Et sur la micro, nous, on est d'accord, on observe des tendances très positives. Les sociétés ont publié des T1 excellents. Le T2 s'annonce très bien. Il y a deux journées ouvrables en plus sur le T2 qui vont commencer à jouer. Il y a des secteurs, donc on citait dans la polémique le secteur de l'immobilier qui est fort portant. Ça veut dire qu'il y a tout un écosystème qui bouge derrière ça. Nous, en information tout à fait fraîche, on a assisté à une conférence HSBC sur le luxe hier. Et ben, avec l'ouverture, le déconfinement, les magasins de luxe sont pleins de visiteurs. Les paniers sont importants. Donc voilà. Ben, en termes micro, on voit peu d'accro à cette dynamique favorable à court terme en tout cas.
Voilà donc pour ce regard croisé sur la perception qu'on peut avoir des marchés. Alors, je le disais en préambule, vous aviez envie de parler de ESG. C'est vrai que c'est une thématique qui a le vent en poupe depuis maintenant de nombreux mois. Il y en a même plein qui sont venus faire un peu cocorico en disant, regardez, dans la crise de cette pandémie sur les marchés, ceux qui s'en sont le mieux sortis, ce sont les valeurs ESG, etc. Comment est-ce qu'on peut en faire pour en profiter de cet engouement pour l'ESG?
Alors, ESG, peut-être, ce qui est important, c'est de mettre quelques chiffres. Si nous, on a travaillé sur des statistiques qui viennent d'un courtier, Goldman, pour le citer, on a retravaillé sur le flottant qui est détenu par des entreprises cotées, par les fonds ESG. Donc, dans les fonds ESG, il y a des fonds passifs et les fonds actifs. Donc les fonds passifs, ce sont les ETF. Les fonds actifs, ce sont, le cas échéant, des fonds qui ont une stratégie proactive sur l'ESG. Donc si on prend les 16 000 sociétés cotées, principales sociétés cotées mondiales, qui capitalisent à peu près 100 000 milliards de dollars, pour référence, LVMH, qui est la capitalisation principale française, c'est un peu au-dessus de 300 milliards d'euros. Donc là, on parle d'un flottant vraiment représentatif du marché mondial. Il n'y a que 3,6% du flottant de ces entreprises qui sont détenues aujourd'hui par des fonds ESG. Donc on peut dire que c'est pas non plus un phénomène majeur, puisque 3,6% du flottant, c'est 3600 milliards. Par contre, ce qu'il faut regarder, c'est la dynamique des flux. Et cette dynamique est extrêmement positive. Elle est très positive sur les fonds passifs, donc les trackers, et donc ça, on en a parlé très souvent ces derniers mois, mais aussi sur les fonds actifs. Donc l'année dernière, il y a eu une collecte de plus de 200 milliards de dollars sur cette thématique. Et là, sur les 4 premiers mois de l'année, 166 milliards de dollars ont été collectés. Donc c'est à peu près le tiers de la collecte de fonds nouveaux. C'est fait sur des thématiques ESG. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer. Personne ne peut ignorer. Et pour jouer cette thématique, il faut bien sûr se poser la question sur quels sont les secteurs, quelles sont les entreprises qui pourraient bénéficier de ces flux.
Est-ce qu'il y a des différences sectorielles, géographiques ?
Alors, bien sûr, il y a des fortes différences sectorielles. L'intuition nous suggère que le secteur des renouvelables est très fortement représenté. Ouais. Et c'est vrai, à peu près 14% du flottant des entreprises actives dans ce secteur sont détenues par des fonds ESG. Et à l'autre bout du spectre, on a l'aéronautique et le spatial qui sont très peu détenus. Voilà, donc je pense qu'il y a un écart-tique important. La santé est assez bien représentée, l'équipement électrique est plutôt bien représenté. En termes de pays...
Oui, parce que là, c'est sectoriel. En termes de pays, ça change aussi. C'est quoi? C'est pays matures contre pays en développement?
Alors ici, de façon fort étonnante, donc bien sûr, les pays nordiques sont très en avance sur cette thématique. La France est dans la moyenne, je dirais. Les pays du sud de l'Europe sont plutôt en retard, mais le Royaume-Uni et les États-Unis sont aussi en retard. Et donc, ça, c'est peut-être quelque chose d'intéressant. Ils ne sont pas pionniers sur cette thématique ESG.
Vous, par exemple, si on s'applique à votre cas précis chez Moneta, comment vous appréhendez, qu'est-ce que vous faites en termes d'ESG, qu'est-ce que ça veut dire ESG chez Moneta?
Alors chez Moneta, on a ESG, enfin c'est un peu notre ADN depuis des années, et je peux être à la différence d'autres sociétés, ce ne sont pas le département marketing chez nous qui pratique l'ESG, mais vraiment ceux qui prennent les décisions d'investissement, donc les analystes et les gérants. Quand nous sommes intervenus pour améliorer la gouvernance d'Altamir à partir de 2012, quand nous construisons nos portefeuilles qui détiennent aujourd'hui plus d'un tiers dans le petit fonds et à peu près un quart dans le gros fonds de valeurs qu'on appelle des valeurs vertes innovantes, ce sont des décisions de gestion prises par les équipes au jour le jour et au quotidien. Et donc, chez Moneta, on pratique l'ESG dans nos actions. On le fait savoir aussi. On a introduit un système de notation des entreprises sur 30 critères. Mm-hmm. 10 E, 10 S, 10 en gouvernance. Et on note en moyenne notre portefeuille. Mais surtout, ce qu'on essaye de voir, c'est comment les notes individuelles des entreprises s'améliorent, parce que c'est ça qui est créateur de valeur.
Créateur de valeur, ça veut dire qu'on peut gagner de l'argent avec l'ESG ?
On peut gagner de l'argent sur l'ESG et on le voit bien, il y a des secteurs qui sont très fortement porteurs. Donc j'évoquais le secteur des énergies renouvelables, il y a des flux encore très positifs là-dessus. Il y a des secteurs, le secteur des équipements électriques, François citait une société comme Schneider, ce genre de société, on le vend en poupe. Et à contrario, il y a toute une série de secteurs qui sont exclus. Je parle par exemple des jeux en ligne, où l'aéronautique et le spatial sont plutôt délaissés.
Alors, on va essayer d'illustrer tout ça par un exemple, mais c'est vrai qu'on ne peut plus passer à côté maintenant. Surtout maintenant, on fait une vraie sélection entre les choix de conviction et le greenwashing.
Absolument. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au moment de la crise sanitaire, il y a eu des doutes en disant bah, est-ce que l'ESG, est-ce que la thématique verte, c'est un effet de mode et on va revenir, j'ai envie de dire, à uniquement la performance financière. Et on a vu que c'était complètement l'inverse. C'est que pendant cette crise, l'intérêt pour toutes ces données extra-financières a pris beaucoup plus d'ampleur que prévu. Et c'est un peu une accélération. On a eu une accélération avec le commerce en ligne. Et là, on a une accélération avec tout le phénomène autour de l'ESG. Donc oui, c'est un vrai sujet. Et c'est d'autant plus intéressant pour les investisseurs. C'est qu'on a vu que pendant cette crise-là, on pouvait gagner beaucoup d'argent avec l'ESG. Ces entreprises-là, parce qu'elles ont une bonne gouvernance, parce qu'elles ont mis en place des scores pour essayer d'améliorer leur empreinte carbone, etc., eh bien, elles arrivent à dégager de la valeur. Et cette valeur, eh bien, il faut essayer de la capter, en achetant leurs actions.
Du coup, si on est très concret, ça veut dire quoi sur une valeur ?
Alors je vais l'illustrer par un exemple. Je vais prendre l'exemple de Veolia, qui est une société qui est, comme vous le savez, active dans l'économie circulaire. Donc c'est une société vertueuse sur le plan ESG. Elle a 13% de son flottant qui est détenu par des fonds ESG. Donc c'est 4 fois la moyenne mondiale. Donc c'est un score très élevé. Alors on peut se dire comment peut-on gagner de l'argent sur cette valeur si son flottant est déjà très détenu par des fonds ESG. Ben, en le comparant à des gens plus vertueux encore. Et là, je vais citer l'exemple de Suez. Suez, donc le meilleur comparable de Veolia, son flottant est détenu à 21% par des fonds ESG. Alors, on s'est interrogé sur le pourquoi de cette différence. Et la seule explication valable qu'on ait trouvée, c'est que dans Veolia, Veolia a encore des activités dans le charbon. Ils font de la cogénération, donc de la production de chaleur dans les pays d'Europe centrale avec du charbon. Et donc, ils figurent dans des listes d'exclusion d'un certain nombre de fonds qui disent ne pas vouloir investir dans le charbon. Donc, le jour où Veolia a bien sûr un plan d'élimination de ses chaudières et de les verdir en chaudières aimables pour l'environnement. Si Veolia accélérait ce processus, il est probable qu'une quantité importante additionnelle de fonds ESG investirait sur le titre. Voilà une illustration d'une dynamique positive sur cette thématique ESG.
Merci beaucoup à tous les deux. François Monnier, Investir, Andrzej Kawalek pour Moneta Asset Management.